L'attachement est un lien affectif puissant que l'on va souvent appeler amour et qui, en fait, y est étroitement lié. Décrit comme étant fondé sur la confiance, la sécurité et la proximité émotionnelle, tu vas découvrir que c'est beaucoup plus inconscient et chimique que tu peux le penser. Mais la question que tu te poses probablement, c'est comment apaiser la souffrance lorsque ce lien est rompu? Bienvenue dans Hypnoconscience. Notre vie est gérée inconsciemment par plusieurs mécanismes de survie faisant intrinsèquement partie de notre nature profonde et l'attachement émotionnel en est un très important. De là, la grande douleur qui en découle lorsque ce précieux lien est brisé. L'attachement est un lien puissant qui peut prendre différentes formes, plusieurs intensités et qui est influencé par certains facteurs, dont le développement dans l'enfance. Mais je ne vais pas aller là aujourd'hui, je vais plutôt rester global et particulièrement du lien d'attachement entre adultes, là, qu'on va dire le lien amoureux. C'est un sujet qui est quand même assez complexe. J'ai pas les connaissances pour vous parler de tous les différents types d'attachements et tout ce qui est relié, les impacts que ça a, comme par exemple l'attachement anxieux, l'attachement évitant, l'attachement, je pense qu'il y a insécure et désorganisé. Les types d'attachement ont beaucoup d'impact sur après ça, comment ça va se passer par adulte. Je vais y aller quand même assez global aujourd'hui. L'objectif, c'est surtout de comprendre comment se crée cet attachement-là et comment traverser la douleur suivant la rupture d'un lien d'attachement. La rupture d'un lien d'attachement peut se faire il peut y avoir par exemple une rupture amoureuse, mais il peut y avoir aussi un décès. D'une personne ou quelqu'un quitte, s'en va à l'extérieur ou peu importe. Bref, lorsque la personne n'est plus vraiment à proximité. Mon nom, c'est Pascal Brousseau. Écoute, si tu ne me connais pas encore, ben, je t'invite à aller t'informer un petit peu plus. Tu peux aller sur mon site internet pascalbrousseau.com ou sur Facebook, Pascal Brousseau Hypnoconscience. Je suis même sur TikTok aussi. J'ai fait un retour sur TikTok. Donc encore là, Pascal Brousseau, tu devrais être capable de me trouver assez facilement. Et ce qui est intéressant avec TikTok, c'est que je me suis mis à faire des lives. Donc, il y a énormément d'interactions avec les gens, ce que je trouve... extrêmement intéressant. J'ai débuté aussi une chaîne YouTube sous mon nom encore, Pascal Brousseau, que je vais probablement nourrir un petit peu plus dans les prochaines semaines, les prochains mois. D'ailleurs, parlant d'interaction sur TikTok, j'ai trouvé ça tellement intéressant, je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'interagir avec les gens qui écoutent mon podcast. Parce que je le vois avec mes statistiques... Je vois les statistiques sur Osha. Osha qui est mon distributeur, si on veut, d'épisodes sur toutes les plateformes. J'ai certaines informations et je vois que les épisodes, selon les épisodes, sont écoutés, je dirais, en moyenne entre par 70 personnes aller jusqu'à au-dessus de 300. Et là, je me questionne, mais qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce que c'est quelque chose que je dis? Est-ce que les gens ont des questions par rapport à ça? Qu'est-ce qui empêche les gens? Qu'est-ce qui coupe? Parce que le taux d'écoute est quand même aussi assez important. J'ai regardé, j'ai analysé un des derniers épisodes, et ça, c'est d'autres statistiques que je peux avoir, mais sur Apple Podcasts, où j'avais 69% des gens qui avaient écouté l'épisode au complet. Et tous les autres avaient arrêté de l'écouter exactement à la même place. Et là, je suis allé voir, mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là qui semble avoir dérangé des gens? Et c'est étonnant, c'est le fameux exemple que je donne quand je parle d'impact des émotions sur le corps, où je dis à la blague, si une pensée coquine de quelques secondes, quelques minutes peut avoir un impact dans tes pantalons, imagine ce que peut avoir une émotion négative sur des mois, voire des années. Eh bien, il semble que pour une grande partie de personnes, cet exemple-là les a choqués. Ben moi, je serais intéressé d'avoir votre feedback par rapport à ça, répondre à vos questions. Fait que j'ai décidé de créer un groupe Facebook. En fait, je ne l'ai pas encore créé, mais je vais le créer tout de suite après avoir fait l'épisode. Un groupe Facebook qui va s'appeler tout simplement Hypnoconscience et non pas Pascal Beausseau Hypnoconscience. Et ce groupe-là, les seules personnes qui vont pouvoir y avoir accès, c'est les gens qui écoutent mon podcast. Et pour ça, je vais mettre une question. C'est-à-dire que lorsque les gens vont vouloir rentrer dans ce groupe-là, ça va être écrit, ben, dites le mot de passe. Et le mot de passe va être tout simplement podcast. Donc, tous ceux qui n'auront pas le mot de passe, ben, je ne les laisse pas rentrer. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à communiquer avec toi, à communiquer avec la personne qui écoute régulièrement mon podcast, parce que ça fait partie aussi des statistiques sur les X centaines, voire milliers de personnes qui ont déjà écouté. Il y a un certain ratio que Apple Podcast, par exemple, me disait qui était là constamment. Je pense que c'était 21 personnes qui avaient écouté à peu près l'entièreté de tous mes 60 épisodes et plus. Donc, et ça, c'est seulement Apple Podcast. Je sais pas, moi, les statistiques de Spotify, par exemple, ou de Balado Québec, ou de Google Podcast. Je sais pas, moi, les gens qui l'ont écouté directement sur mon site Internet. Donc, la seule façon d'interagir avec toi, avec toutes les gens qui écoutent, ben, c'est d'arriver à communiquer directement par écrit et j'ai pensé créer ce groupe-là. Donc, je t'invite à venir faire une demande sur Facebook à Hypno Conscience. Donc, pour enchaîner, l'attachement, comme je disais, c'est vaste, c'est grand. On peut avoir de l'attachement émotionnel avec des amis. Il y a l'attachement émotionnel parent-enfant, qui est celui de base, hein, le premier qui nous modèle littéralement. Il y a celui entre partenaires amoureux. Il y a même celui avec des animaux, parce qu'on développe un lien d'attachement très profond avec nos animaux de compagnie, nos chiens, nos chats, etc. Ce qui fait que lorsque ces derniers décèdent, ben, on vit un deuil assez intense pour ceux qui l'ont déjà vécu. Donc, appelé à tort ou pas, amour. Et je ne voudrais pas dénigrer ça. Je dirais au niveau scientifique, j'appellerais vraiment ça de l'attachement. Mais l'être humain est tellement complexe. On n'est pas juste des cellules, on n'est pas juste des hormones, on n'est pas juste des stratégies de survie. Et pour moi, l'amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui n'a pas d'attachement. Hein, l'amour parlé par Jésus, l'amour parlé par Bouddha. Mais dans notre quotidien, on appelle ça amour, l'amour entre deux personnes, et c'est un lien très fort qui est l'attachement. Parce que oui, on peut aimer sans attachement et on peut détester avec de l'attachement aussi, ce qui fait quand même la différence. Mais c'est un mécanisme complexe de survie qui est en lien avec notre confort, avec notre sécurité, mais avec aussi notre équilibre psychologique et même biologique. Le lien d'attachement crée, si on veut, une espèce de co-régulation de notre état psychologique et biologique, parce que les scientifiques ont prouvé que ce lien-là va sécréter certaines hormones qui vont travailler sur le système nerveux et le système endocrinien, ce qui fait que, à quelque part, le ou la partenaire a la capacité de calmer nos mal-être, de calmer nos stress, de calmer nos problématiques. Ce qui fait qu'on est extrêmement bien avec la personne, par exemple, malgré une journée difficile, on va rentrer à la maison et pouf, tout va s'équilibrer. J'y reste encore plus efficace qu'une coupe de vin. Mais comme pour la mère et son enfant, parce que c'est le premier lien vraiment d'attachement qui se développe, les partenaires en présence l'un de l'autre vont sécréter des hormones, comme par exemple l'ocytocine. Mais il n'y a pas seulement l'ocytocine qu'on appelle l'hormone d'attachement, il y a aussi certains opioïdes endogènes. Et le mot le dit, opioïdes, c'est vraiment des molécules qui ressemblent à des opiacés, mais au lieu d'être externes, comme la morphine ou ces choses-là, ben c'est endogène, donc c'est sécrété par nous. Et particulièrement, l'intimité physique et sexuelle vont représenter le moyen le plus rapide et le plus puissant pour la sécrétion de ces hormones-là, donc pour renforcer le lien d'attachement. En ce qui a trait à la mère et son enfant, ben c'est l'allaitement qui va le faire. Et c'est pas seulement l'enfant, lorsqu'il allaite, qui va sécréter de l'ocytocine, mais la mère aussi va en sécréter. Et tout ça, ça a un objectif, c'est la survie. Parce qu'on est des êtres de groupe, j'en ai parlé souvent, on est des êtres de meute, et pour survivre, on a besoin de compter les uns pour les autres. Et la nature, pour s'assurer qu'on se bullshit pas, imaginez si on n'avait pas ce lien-là, ce que la Terre ressemblerait déjà avec toutes les guerres qu'on a présentement et tout ça, s'il fallait qu'on crée même pas de lien entre les individus proches, je pense que ça ferait longtemps que la race serait disparue. Mais bref, c'est ça. Cette proximité-là va créer des hormones de bien-être et qui est carrément de la drogue. Hein, quand on le dit, ocytocine et opioïdes qui régulent le système nerveux. Donc, c'est de la drogue et c'est pas de la légère. C'est de la drogue. C'est de la drogue forte. C'est de la drogue de bonne qualité. Et c'est un peu pour ça qu'on va en souffrir. Par exemple, avant même que le lien soit brisé, si le lien est encore là, mais que, par exemple, il y a de la confusion dans la relation, que la relation est compliquée ou que même elle est toxique ou qu'elle ne répond pas à nos besoins, ben, il va y avoir déjà de la souffrance par rapport à ce lien d'attachement-là qui se crée naturellement pour notre survie, que l'on va souvent appeler amour. Ce qui va nous amener un peu, et j'en ai déjà parlé, au syndrome de la mouche. Hein? Est-ce que je quitte ou je reste? Et cette fameuse mouche-là, c'est comme la mouche qui fonce dans une fenêtre pour sortir, ça marche pas. Elle s'en va dans une autre fenêtre, elle fonce dedans, ça marche pas. Elle s'en va dans l'autre fenêtre, elle revient, ça marche pas. Et là, sans arrêt, on va se dire, je quitte, oh non, ça fait trop mal. Je reste, oh non, je suis pas bien, ça fait mal. Oh, je quitte, oh non, ça fait trop mal. Et finalement, on en vient au burn-out, littéralement, parce que le cerveau devient complètement brûlé parce qu'on est confus, parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision. Et en plus de cette souffrance-là, ben, il y a aussi quand le lien est brisé, qu'on réalise l'importance souvent qu'avait cette régulation-là intérieure, ce bien-être-là, on le dit souvent, hein, c'est quand la personne s'en va qu'on réalise à quel point on était bien avec. Mais je dirais, c'est quand que la personne là, s'en va que souvent on oublie comment on était mal avec aussi, donc il faut faire attention. Et bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, là. À ça vient s'ajouter un paquet d'avantages à la relation. Mon objectif dans ça, lorsque je vous parle du côté hormonal, c'est pas de diminuer en quoi que ce soit les relations qu'on peut avoir avec des gens. Ces relations-là sont souvent extraordinaires. Ils nous apportent un paquet de choses, ils nous font grandir. Mais c'est juste de vous amener à être conscient ou à t'amener à être conscient que derrière ça, il y a vraiment un processus littéralement d'addict, de drogue derrière ça. Donc, il y a un sevrage important qui est à considérer lorsqu'il y a rupture de ce lien-là pour une raison ou pour une autre. On va ressentir, oui, des douleurs psychologiques, ça va faire mal, il va y avoir toutes sortes d'émotions reliées à ça, tristesse, peur de la solitude, culpabilité, peut-être même de la colère, mais il y a aussi des désordres physiques qui vont s'installer par manque de cette drogue-là. Il y a des douleurs qui peuvent même survenir, de l'insomnie, de la perte d'appétit, parce que c'est prouvé que il y a toujours un contrebalan. Lorsque l'ocytocine et les opioïdes endogènes diminuent, ben, il y a une montée de cortisol et d'adrénaline. Donc, cortisol et adrénaline qui vont amener d'autres problèmes. C'est pour ça que, avant de passer, je dirais, à l'apaisement ou au deuil, il va souvent y avoir deux phases de réaction à cette perte-là ou à ce manque-là, si on veut. Ce que j'ai découvert dans les écrits, c'est que d'abord, il va y avoir la phase de protestation. C'est-à-dire que la personne va résister à la fin de ce lien-là. Va faire des tentatives de retour. Va essayer de négocier. Ça ressemble un peu aux phases du deuil, là, la négociation et tout ça, et la colère qui vient avec. Pour ensuite laisser place à la phase 2, qui est le désespoir. Donc, phase où il va y avoir tristesse et dépression et où on va rentrer vraiment dans le creux du manque, si on veut. Ce qui me fait penser, pour les gens un peu qui sont comme dans le syndrome de la mouche ou qui vivent ça, j'ai l'épisode 47 où j'ai parlé de accepter de souffrir pour arrêter de souffrir. Parce que lorsque on est pris dans ce dilemme-là de dire « Mon Dieu, que je suis bien, mon Dieu, que cette personne-là m'apporte du bien-être », mais en même temps, mon Dieu, qu'elle m'apporte du malaise, et ça, je le vois souvent avec la clientèle, souvent des gens qui vivent de l'oppression, des femmes qui vivent, par exemple, avec des hommes toxiques, elles disent les aimer, ces hommes-là. Elles disent être bien certaines périodes avec. Mais lorsqu'on fait le calcul logique, la majorité du temps, elles sont pas bien. Puis, je pense qu'on n'a pas non plus à faire une balance ou à endurer, on a le droit un petit peu à la totale, puis on a le droit à choisir ce qui est bien pour nous. Le problème, c'est qu'on n'est plus capable de se défaire de cette drogue-là, si on veut, que la personne nous a apportée au fil du temps. Donc, accepter de souffrir pour arrêter de souffrir, c'est l'épisode 47, si ça vous parle, vous irez l'écouter. Apaiser et... traverser le deuil ou le sevrage, ben il y a des étapes à ça et j'ai envie de te donner certains trucs que j'ai observés. Cet épisode-là, d'ailleurs, me parle particulièrement quand j'observe l'ensemble de ma vie. Quand j'ai fait des petites recherches dessus en le montant, ça m'a amené énormément d'introspection. Donc, premièrement, si tu vis, toi, présentement, une rupture de lien d'attachement comme ça, probablement que tu te rends compte que ça peut durer longtemps. Peut-être que ça fait juste 2 jours, mais peut-être que ça fait 2 ans aussi puis que ça part pas. Donc, mon objectif ici, c'est de te donner 5 trucs pour passer à travers ce sevrage-là, si on veut, sans nécessairement utiliser des stratégies qui pourraient être, je dirais négatives. Pas nécessairement négatives, mais comme par exemple la fuite, ou l'évitement, ou le rebound, hein, aller tout de suite avec quelqu'un d'autre qui n'est pas plus adéquat que le premier, puis finalement te retrouver dans la même situation. Donc, premièrement, prends conscience des émotions et des pensées qui se rattachent à cette rupture-là, ainsi que des comportements nuisibles que tu adoptes. Hein. Je parlais d'isolement, de fuite, de retrait. La fuite, ça peut être dans l'alcool, dans la drogue, je sais pas moi, dans le sexe compulsif, ça peut être la fuite en allant avec quelqu'un d'autre très, très, très rapidement. Ça, on le voit souvent. Le retrait, ça peut être tout simplement l'isolement. Ça va être des stratégies de repli, dans le fond, qui ne vont pas être bénéfiques pour toi. Donc, fais juste prendre le temps de ressentir, d'observer. Hein, je parle souvent d'observation consciente. Prends le temps de ressentir, d'observer toutes les émotions et les pensées qui sont reliées à ce que tu vis et à la personne, ne serait-ce que pour les conscientiser. Ensuite, fais un travail sur ces pensées-là et donne un sens à la situation. Notre âme, notre être a besoin d'avoir un sens dans la vie. J'en ai déjà parlé par rapport au travail, par rapport à toutes sortes de choses. Avoir un sens à ce qu'on vit diminue énormément la souffrance et la douleur. Donc, essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, essaie d'en tirer des apprentissages. Et quand je dis « surveille tes pensées », souvent on a besoin d'un recadrage, c'est-à-dire ce sur quoi on focus. Et je te dirais « focus sur l'avenir ». L'avenir possible, et à la limite, si tu veux t'aider, focus sur les points négatifs qui ont mené à cette rupture-là. Parce qu'il y a une raison derrière ça, qu'elle vienne d'un côté ou de l'autre. C'est sûr que peut-être que si c'est un décès, il n'y a pas nécessairement de point négatif, mais si c'est un décès, ce que je dis souvent aux gens, c'est « pense-y 2 minutes. Est-ce que tu aurais préféré ne jamais rencontrer cette personne-là, ne jamais la connaître pour ne pas souffrir ce que tu vis aujourd'hui? » Ou après avoir observé ça, tu dis « non, cette personne-là valait la peine que je la rencontre. » Et ça vaut donc la peine que je souffre un certain moment présentement et j'honore le fait que j'ai rencontré cette personne extraordinaire-là. Et ça, je vous le dis, ça fonctionne, je l'ai fait avec plusieurs clients, je l'ai fait avec moi et Ça permet réellement d'apaiser un peu, de passer tranquillement à autre chose pour regarder le potentiel positif de l'avenir. Ensuite, fais attention à tes pensées, c'est-à-dire ressasser le passé et constamment focusser sur les bons moments du passé. Parce que j'ai vu des gens être totalement malheureux dans le présent, et ça depuis des années, vouloir mettre fin à une relation, mais pas être capable parce que en se disant, ben, il y a 10 ans, on était tellement bien. Oui, mais ça, c'est il y a 10 ans. Donc, être capable d'observer, dire aujourd'hui, est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour que ça aille bien? Donc, je focus sur maintenant. Donc, ne pas ressasser le passé et ce qu'on a perdu, mais regarder qu'est-ce qui s'en vient vers l'avant, puis avoir une certaine résilience. Troisième point, exprimer ses émotions. Faire des rituels, c'est-à-dire sortir ce qui est là en dedans et ne pas garder ça à l'intérieur. Remercier pour les bons moments. Remercier pour les apprentissages qui ont été faits. Réaliser que dans la vie, tout passe. Tout passe. Il n'y a rien qui reste constamment permanent. On a juste à se regarder, les saisons, nous autres, on vieillit. Les choses passent. Des fois, on ne voudrait pas qu'elles passent, mais on sait très bien que plus on résiste, plus ça devient difficile. Mais c'est important de juste exprimer tout ça. Si on n'est pas capable de le faire avec des gens, comme je dis, faire des rituels, j'entends qu'il y en existe des centaines, probablement des milliers. Moi, j'aimais bien le rituel qui s'appelle le rituel du tabac. Amérindien, mais en fait, je le faisais pas avec du tabac, mais je le faisais avec d'autres plantes que j'avais cueillies, où je m'installais devant un feu et je mettais ces plantes-là dans ma main que je collais sur mon cœur. Et je mettais toutes mes pensées, mes émotions, le remerciement à ces personnes-là et tout ça, et tous les désirs que j'avais et tout ce que je voulais laisser dans ça pour le futur. Et quand j'étais prêt, je laissais aller ça dans le feu et je le brûlais. Il y a des gens, par exemple, qui vont écrire des lettres qu'ils ne donneront jamais à la personne, mais au moment venu, ils vont tout simplement brûler la lettre. Et le feu a une symbolique énorme dans notre inconscient au niveau des rituels. Bref, vous pourrez vous informer, je ne suis pas le maître des rituels, mais il en existe toutes sortes, je suis certain que tu en connais. Donc, c'est efficace, même ne serait-ce que les bonhommes allumettes, ceux qui connaissent les bonhommes allumettes de Jacques Martel, super intéressant aussi. Donc, remercier pour les bons moments, les apprentissages et attention à la peur et à la culpabilité. Parce que souvent, dans cette résistance-là de passer à autre chose, il y a énormément de peur de perdre, peur de rester seul et énormément de culpabilité sur ce qu'on a fait ou ce que l'on n'a pas fait. Mais il va être important, à un certain moment, d'appliquer le pardon. Le pardon est super important, qu'il soit pour nous-mêmes ou qu'il soit pour les autres, parce que la culpabilité envers nous-mêmes ou la rancœur envers les autres va tout simplement faire perdurer la souffrance et il n'y aura pas d'apprentissage à travers tout ça. Quatrièmement, avoir des comportements adéquats. Donc, je disais tantôt, bon, la fuite, l'alcool, la drogue, le jeu ou peu importe. Ce n'est pas des comportements adéquats. Les comportements adéquats vont être beaucoup plus d'aller, par exemple, vers les amitiés saines, parce que les amitiés facilitent le détachement. J'en ai parlé au début. Les amitiés aussi sont des liens d'attachement, peut-être moins forts émotionnellement que les liens amoureux, mais les amitiés vont faciliter énormément la transition. Et le deuil. Je dis les amitiés, mais si vous avez des enfants, de la famille ou des choses comme ça, donc, bref, recréer des liens. On est des êtres de relation, on est des êtres de lien, donc recréer des liens ou renforcer les liens qui existent déjà sont des comportements adéquats pour apaiser la souffrance. Et finalement, cinquièmement, ben, accepter. Tout simplement, accepte tout simplement que ça prend du temps. Ça prend de la résilience. La vie, c'est ça. La vie, c'est fait de haut et de bas. La vie est faite de symptômes et de souffrances. C'est un comment on dit, des préceptes bouddhistes, des vérités bouddhistes. La souffrance existe. C'est aussi simple que ça. Donc, simplement l'accepter, accepter que ça peut prendre du temps. Ben, ça va déjà aider à accepter que le temps passe et mettre notre esprit sur autre chose, hein, parce qu'on le sait, ce à quoi on résiste persiste. Et écoute, demande de l'aide. Si c'est trop difficile, si tu as envie d'un coup de pouce, si tu veux que peut-être que ça aille un petit peu plus vite, ben, de consulter une personne compétente pour t'accompagner, c'est un plus. Je l'ai déjà fait, ça aide, ça fait partie de l'autonomie, hein, parce que l'autonomie, c'est savoir quand j'ai besoin d'aide et quand je suis capable de le faire tout seul. Et si c'est le cas, ben, je t'invite à me contacter via pascalbrousseau.com, il y a un bouton en haut, prendre rendez-vous, et ça va me faire plaisir de t'accompagner à travers ça, pour t'aider à traverser peut-être ces moments-là qui sont un petit peu plus difficiles, pour te donner les outils nécessaires pour le faire, parce que l'amour, et c'est quelque chose que j'ai compris et qui m'a permis d'apaiser une blessure d'abandon il y a quelques années, l'amour se transforme. L'amour ne meurt pas, l'amour ne disparaît pas, l'amour se transforme. Et quand on comprend ça et on le vit, c'est vraiment très apaisant. Et petit conseil pour l'avenir, fais attention de ne pas développer de lien d'attachement avec une personne qui ne te convient pas. Valide logiquement avant de développer des liens. Et je n'ai parlé un peu qu'est-ce qui crée les liens. C'est les rapprochements, particulièrement les rapprochements physiques, c'est les temps de qualité passés avec des personnes. Avant de faire ça, va donc écouter les ABC d'une relation, qui est l'épisode 48. ABC d'une relation, surtout les AB, c'est les points importants que tu veux dans ta vie. C'est important qu'ils soient super clairs dans ton esprit, de un, pour attirer ce que tu veux, et de deux, pour repérer rapidement ce qui n'est pas adéquat pour toi. Donc, mets ça au clair, écoute l'épisode 48, les ABC d'une relation, et fais attention. Peut-être aux relations sexuelles répétées, si tu ne désires pas, par exemple, t'attacher à une personne. Parce qu'on l'a vu, on en a parlé, les rapprochements physiques vont favoriser la sécrétion d'ocytocine et vont favoriser la création du lien d'attachement. Et si après X mois, tu te réveilles puis tu dis non, je le sais depuis le début, c'est pas la personne que je veux, ben ça se peut. Peut-être qu'au niveau du lien d'attachement, ben, ça va faire mal et ça va créer de la confusion. Donc, c'est important de comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment nos mécanismes fonctionnent, si on ne veut pas que ce soit ces mécanismes-là qui gèrent notre vie, mais que ce soit plutôt nous autres qui gèrent notre vie en pleine conscience de ces mécanismes-là et de comment ils fonctionnent. Donc, j'espère que cet épisode-là t'a quand même éclairé sur des choses. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à partager autour de toi. C'est important. C'est important pour moi. C'est important pour d'autres personnes que tu pourrais aider. Parle du podcast aux autres. Parle de cet épisode-là. Partage-le sur les réseaux sociaux. Et je t'invite à venir faire ta demande pour participer au nouveau groupe Facebook Hypnoconscience, dont le mot de passe est podcast, pour venir me donner ton feedback, me poser tes questions et me dire de quoi tu aurais envie que je parle dans un prochain épisode. Et ça va me faire plaisir. Et dans ce groupe-là, il y aura possiblement des bonus et des rencontres live où je pourrais répondre à tes questions. Donc, partage autour de toi, abonne-toi pour recevoir les avertissements des prochains épisodes. Je te remercie énormément d'avoir écouté comme ça avec attention jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.